7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Bonsoir Mickaël Thébault.
Bonsoir Nicolas.
Ailleurs dans le monde, direction la Cisjordanie, Mickaël, la ville de Birzeit qui a inauguré hier son nouveau musée.
Ouais, c'est une première et c'est un musée déjà très critiqué car censé être consacré à la Nakba, littéralement la catastrophe. Terme qui, pour les Palestiniens, désigne, vous le savez, la création de l'État d'Israël il y a 68 ans, en mai 1948. Près de 800 000 Palestiniens avaient alors dû quitter leur terre au lendemain de la première guerre israélo-arabe. Catastrophe commémorée comme telle la semaine dernière partout dans les territoires palestiniens. Et il y a donc maintenant ce musée de la Nakba inauguré hier. Bonsoir Nicolas Repère en direct de Ramallah.
Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous.
Alors vous avez pu pour nous, Nicolas, visiter ce musée juste avant l'ouverture.
Oui, des ouvriers font les derniers retours jusqu'à la dernière minute, mais le musée palestinien a bien ouvert ses portes hier, mercredi. Un immense bâtiment blanc aux formes étirées qui trône désormais sur une colline de Birzeit, la ville surtout connue pour son université qui accueille 15 000 étudiants. C'est l'université elle-même qui a donné ce terrain, comme pour montrer aux jeunes palestiniens leur histoire en quelque sorte. Le lieu a été financé par une fondation qui rassemble des Palestiniens de la diaspora. Le bâtiment a coûté la modique somme de 21 millions d'euros, un montant qui ne choque pas Obour Achash, la directrice de production du musée. Elle se définit comme une Palestinienne du Chili, où elle est née et où elle a grandi.
Ce musée devra montrer la diversité de chaque Palestinien. Moi, je suis palestinienne, mais je suis née au Chili. Et mon identité est un peu différente d'un Palestinien qui serait né en Cisjordanie. Mais on se réfère tous à la ville de nos parents ou de nos grands-parents avant qu'ils ne soient dispersés. Donc on essaiera de montrer cette unité dans le musée.
Et selon la direction, Nicolas, le musée devrait donc accueillir des expositions d'artistes palestiniens, mais aussi des archives, des photos de toute cette période, devrait seulement, car pour l'instant, le musée est totalement vide.
Ce qui ressort quand on visite l'endroit, c'est que toutes les salles sont prêtes, mais vides. Il n'y a pas de collection dans ce musée, la salle des archives est en cours de préparation, nous répète-t-on. La première exposition se tiendra au mois d'octobre, dans 6 mois donc, au mieux. En cause, le retard qu'a pris l'organisation après le départ du directeur et d'une partie des équipes en décembre dernier. Ils ont évoqué un désaccord de fond sur la tournure que prenait le musée. À quoi bon faire l'inauguration dès maintenant, souligne Wafa Harouri. Cette journaliste pour la chaîne de télévision palestinienne Watan a suivi de près le dossier.
Le fait que le musée soit vide lors de son ouverture n'aidera pas les gens à s'en souvenir. Les responsables du musée auraient dû mieux s'organiser pour que l'on puisse découvrir ce lieu dans de bonnes conditions. Cela lui aurait permis de trouver son public. Après, je ne suis pas choquée que le musée ne parle pas de politique. C'est bien aussi de parler d'autres choses comme de la société, de la culture. Vous savez, on en a tous un peu marre de la politique.
Bon alors, pas assez ou trop politique, expliquez-nous pourquoi cela divise tant la société palestinienne.
Alors parce que le lieu était au départ prévu pour être une sorte de mémorial de la Nakba, la catastrophe qu'a été pour les Palestiniens la création de l'État d'Israël. Les donneurs ont souhaité mettre l'accent sur l'aspect culturel du musée, un choix qui se discute, on l'entend. Riem Abdouladi, la chargée de communication du musée, défend pourtant ce choix. Pour elle, le musée en lui-même est un lieu à découvrir.
Nous avons pris du retard parce que plusieurs idées ont été discutées. Ensuite, il a fallu du temps pour réunir les financements et pour trouver les gens pour travailler. Ce paysage et l'architecture du bâtiment font partie du musée. Pour nous, c'est une exposition à part entière. Le musée a été construit dans cette nature et avec cette topographie pour montrer quelles sont les terres des Palestiniens et leur paysage.
L'autre argument donné, c'est la mise en ligne des archives, car la plupart des Palestiniens de la diaspora n'ont pas le droit de revenir sur leurs terres. L'histoire des Palestiniens sera donc consultable en ligne ou physiquement au musée à Birzeit.
Nicolas Repère, correspondant de France Inter en territoire palestinien. Merci.
Et l'on file maintenant en Italie, Mickaël, où une grande figure de la vie politique vient de disparaître.
Et on a appris il y a quelques heures le décès de Marco Pannella, 86 ans. Alors ce nom ne vous dit peut-être rien ici en France, mais de l'autre côté des Alpes, c'était une véritable célébrité, le leader historique des radicaux italiens, infatigable défenseur des droits de l'homme en général et des droits de la femme en particulier, un fort en gueule qui ne plaisait pas forcément à tout le monde. À Rome, Mathilde Inverti.
Marco Pannella est un personnage complexe, le contestataire par excellence qui a fait carrière dans la politique. Il est de tous les combats en Italie, contre la peine de mort, le nucléaire, pour la légalisation des drogues douces et surtout en défense des droits civiques. En 1974, pour le droit au divorce, Pannella enchaîne 78 jours de grève de la faim. L'Italie dira oui au divorce dans la foulée. Il était le fils d'une Italie laïque, libérale et contestataire, écrit le directeur de l'hebdomadaire L'Espresso, le journaliste politique Marco da Milano.
Passera la storia come l'uomo dei diritti civili.
Marco Pannella restera dans l'histoire comme l'homme des droits civiques, l'homme qui, avec un petit mouvement, le Parti radical dans les années 70, a réussi à imposer à l'agenda politique italien des questions comme l'avortement, le divorce, les droits des femmes, pour la rénovation de la vie politique aussi. Par exemple, il s'était battu contre le financement politique des partis. Et sans aucun doute, Marco Pannella est une figure inimitable, unique. Un personnage qui a été haï par tout le monde à tour de rôle. Parfois par la droite, parfois par la gauche, parfois par le Parti communiste, puis par la démocratie chrétienne. Mais tous, aujourd'hui, lui reconnaissent un rôle central dans la politique italienne. Et lui, qui a toujours été un agitateur, eh bien, il est aujourd'hui reconnu comme un des pères de notre République.
Marco Pannella, leader historique du Parti radical, compagnon de route politique d'Emma Bonino. Il a été réélu constamment député entre 1976 et 1994, agent de la politique spectacle aussi. Pannella qui pouvait tenir l'antenne télé et radio des heures en direct pour échanger avec les Italiens. L'ennemi des bien-pensants qui fit élire au Parlement sous l'étiquette du Parti radical une certaine Cicciolina, actrice X. Pannella, l'anticlérical qui était l'ami de Jean-Paul II et du pape actuel François. Pannella, salvé ce soir par l'ensemble de la classe politique italienne.
Mathilde Imberti, correspondante de France Inter à Rome.
Et de Rome à Bruxelles, où comme chaque jeudi, Mickaël, on va aller fouiner maintenant dans les coulisses des instances européennes.
Et oui, et notre fouineur, notre renifleur en chef nous y attend. Bonsoir Quentin Dickinson.
Bonsoir Mickaël, bonsoir Nicolas et bonsoir à tous.
Alors ce soir, Quentin, une fois n'est pas coutume, on parle de vous. Vous, les journalistes, accrédités permanents auprès de l'Union européenne.
Oui, alors Mickaël, si votre première interrogation c'est combien sommes-nous ici au juste, eh bien ça tombe bien, nous venons justement hier de recevoir les statistiques semestrielles. Il y a précisément donc 1154 individus accrédités permanents auprès des institutions européennes, dont 847 rédacteurs et 307 techniciens de l'audiovisuel. Ce sont ainsi près de 500 médias, tous supports confondus et originaires d'une soixantaine de pays, qui sont représentés ici. C'est donc la plus importante concentration de presse internationale au monde.
Et qui l'emporte, presse écrite ou audiovisuelle ?
Difficile à dire. Si l'on considère que les agences de presse font partie de la presse écrite, alors celle-ci l'emporte largement face aux 40 radios et aux 106 télévisions. Mais la nouveauté de ces dernières années, c'est l'augmentation spectaculaire du nombre de sites sur l'Internet. Aujourd'hui, on en dénombre pas moins d'une quarantaine.
Et où se situent les médias français là-dedans ?
Eh bien, avec 31 organes de presse français, nous sommes dans le peloton de tête, derrière les Allemands, 43, les Britanniques et les Espagnols. 78 journalistes français sont actifs ici, pas tous évidemment, au service d'un média français, loin derrière les 99 Allemands et tout juste dans le sillage des 82 Britanniques.
Enfin, et puisque vous avez tous les chiffres, quelle est la proportion de femmes par rapport aux hommes ?
Eh bien, on dénombre 794 hommes et 360 femmes, mais la statistique est un peu trompeuse, puisque les hommes dominent largement la catégorie des techniciens audiovisuels, alors que chez les rédacteurs, nos consoeurs représentent plus de 2/5 des effectifs.
Quentin Dickinson, l'un des 1154 accrédités permanents auprès de l'Union européenne. Merci beaucoup, Quentin.
Et pour finir, direction Cannes, Mickaël, avec la Roumanie qui présente aujourd'hui son second film en compétition officielle.
Eh oui, Baccalauréat, c'est le titre signé Christian Mungiu. L'histoire d'un père qui se démène pour que sa fille soit acceptée dans une prestigieuse université. Ça, c'est le point de départ du film. Bonsoir, Eva Bétan, en direct de Cannes.
Bonsoir.
Alors d'abord, Eva, Mungiu, on le rappelle, hein, est très loin d'être un inconnu de la croisette.
Oui, Christian Mungiu, vous savez, avait eu la Palme d'Or pour son film 4 mois, 3 semaines et 2 jours. Alors, c'est difficile de généraliser, mais il y a un point commun chez les cinéastes roumains qu'on peut voir notamment ici, c'est qu'il y a une sorte de patte dure, de manière de raconter les histoires, de les tenir, d'être sans pathos, de dire à la fois des choses sur la société et des choses universelles. Alors, Baccalauréat de Christian Mungiu, ça a l'air d'être une histoire de rien. C'est un père qui est tout stressé parce que sa fille passe son bac le lendemain. Elle est brillantissime. Donc, il est sûr qu'elle aura le 18. Le 18 est très important parce qu'avec ce 18, elle a droit à la bourse. bourse et elle est déjà prise dans une fac étrangère. Ça veut dire qu'elle peut partir. Mais elle est agressée la veille du bac. Et si elle n'a que 17 et demi, elle part pas. Bon, ça nous arriverait, nous, on dirait c'est embêtant, mais bon, c'est pas là, le bout du monde. Pour lui, c'est le bout du monde. Parce que c'est, il fait partie d'une certaine génération, la génération qui a connu la révolution. Est-ce que ça veut dire qu'il croit assez en son pays pour vouloir que sa fille reste en Roumanie? Ou est-ce qu'il pense qu'il n'y a pas d'espoir et qu'il faut partir? Et c'est de ça dont on a parlé avec Christian Mongiou. Cette génération, c'est la sienne.
Maintenant, c'est la génération des gens qui sont en vivant en 90, en Roumanie. Les gens qui ont fait la révolution roumaine, les gens qui restent sont un peu déçus. Parce que maintenant, c'est vraiment trop tard pour ma génération de dire qu'on peut espérer que la société même va s'échanger complètement. Mais tu dois faire un choix pour tes enfants. Et c'est ça le problème maintenant pour ces générations, de décider si le temps que nous avons passé pour rester, essayer d'échanger, est un bon exemple pour nos enfants. S'ils doivent rester, faire la même chose. Et combien de générations successives de sacrifices, comme on dit, nous avons cette expression toujours en manu, on dit la génération de sacrifices, mais nous avons que des générations de sacrifices. Ça doit s'arrêter. Et comme parents, ce n'est pas sympa d'envoyer tes enfants pour devenir membres de ces générations de sacrifices. Tu espères toujours que tes enfants peuvent vivre mieux que toi. C'est ça la problème actuel de ma génération, je crois.
On voit dans votre pays une corruption qui est partout. Dans tous les petits rouages. Vous appelez ça de la corruption? Comment vous appelez ça?
Ce n'est pas seulement la corruption, c'est aussi le compromis. Le compromis n'est pas exactement la corruption. C'est une façon plus simple de trouver les solutions dans un endroit où les choses ne marchent pas très bien pour le moment.
C'est-à-dire, expliquez-moi.
C'est en démocratie encore jeune, c'est en capitalisme encore jeune, alors les choses ne sont pas exactement en place. Les lois ne sont pas exactement les plus bonnes lois qu'on pouvait avoir. Les gens ne respectent pas toujours les lois. C'est plus simple d'appeler quelqu'un pour résoudre une chose qui ne marche pas pour le moment, et ça arrive vite, que d'essayer de changer les choses en profondité et de dire que si ça ne marche pas, on doit changer. Oui, bien sûr, on doit faire ça, mais ça prend du temps. Si nous avons cette tolération pour la corruption sociale qu'on voit à côté de nous, peu à peu, ça entre aussi dans ta vie privée. Tu ne comprends pas exactement que si tu ne luttes pas vraiment avec beaucoup de force contre la corruption que tu vois à côté de toi, tu arrives finalement par faire des choix qui ne sont pas vraiment très moraux. Et parfois, tu ne réalises pas.
Qu'est-ce
que tu as fait? Je vais copier ton job.
Magda, en plus de confusion.
Il y a 5 ans, Christian Mongiou ne parlait pas le français. Maintenant, il tient une conversation avec des idées subtiles et tout. C'est ça le bonhomme. Et le film est présenté ce soir et il y a aussi le film de Xavier Dolan, Juste la fin du monde.
Et puis il se murmure, hein, Eva, que les deux films sont palmedorisables, si vous m'autorisez le terme. Je préfère palmedorisable. Eva Bétan, en direct de Cannes, Nicolas. À demain,
Michael.